stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. If I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I stay or should I go?
C'est le retour de votre émission mensuelle préférée sur Bac FM 106.1, l'écho des jeunes. Bonjour à tous, chers auditeurs, pour ceux qui nous écoutaient les années précédentes et pour les nouveaux. Bienvenue dans l'écho des jeunes autour de la table. Bonjour Antoine.
Bonjour Antoine.
Et bonjour Miloan. Bonjour Clément.
Bonjour.
Bonjour.
Alors pour ceux qui nous écoutaient les années précédentes, l'écho des jeunes, c'est une émission où on avait une petite équipe. Et cette équipe, chaque mois, se retrouvait pour discuter d'un thème avec des interviews, des chroniques, etc. Et cette année, pour une ultime saison...
Non, peut-être que quelqu'un reprendra
c'est vrai.
L'an prochain.
Pour une ultime saison, pour nous en tout cas.
Oui, étant donné qu'on n'a que des terminales autour de la table.
Tout à fait, des lycéens terminales de Raoul Folraud. On a décidé de se donner un peu plus de liberté. Et cette fois-ci, on ne fera pas un thème par émission, mais... plusieurs thèmes en fonction de nos goûts, nos envies, l'actualité, etc.
Chacun fait ce qu'il veut.
Tout à fait, chacun sa route, chacun son chemin, comme disait l'autre. Passe le message à ton voisin. Et alors aujourd'hui, on va parler avec toi Antoine en premier sur la Coupe du Monde de rugby.
Mais je dirais même qu'on va parler de la Coupe du Monde de rugby.
Bien sûr, qui se déroule actuellement. Ensuite, on verra les dangers des réseaux sociaux avec toi Clément. Et ensuite, la protection des océans.
Absolument, même si dans la Nièvre, il n'y a pas d'océan, juste la Loire, mais pourquoi pas.
Bien sûr, mais ça nous concerne tous finalement.
Oui, finalement.
Et je conclurai l'émission avec la culture, les points culturels en octobre, les films et les jeux vidéo qui sortent ce mois-ci.
Et c'est d'ailleurs une chronique que tu nous feras normalement tous les mois.
Tous les mois ou presque, on verra.
Quand tu en
fonction des sorties.
L'envie.
C'est ça.
Peut-être une saison 3 de OVNI.
Peut-être, mais non, malheureusement, Canal Plus n'a pas eu le budget.
Ah, d'accord.
C'est bien triste.
Comme c'est triste.
À préciser aussi que si vous n'avez pas écouté les précédentes émissions de l'Écho des Jeunes, vous pouvez les retrouver en podcast sur l'émission de Bac FM et même retrouver toutes celles qu'on fera cette année. Antoine, parle-nous donc de cette Coupe du Monde.
Bah oui, je vais vous dire d'abord bonjour à tous, grands et petits de l'Écho des Jeunes, car la jeunesse n'est pas un âge, c'est un état d'esprit, et si pour vous, être jeune, c'est la retraite, eh bien, qu'on s'y accorde. C'est ainsi que je débuterai mes nouvelles chroniques pour cette nouvelle saison, pour une nouvelle équipe et de nouvelles émissions. Rien à signaler de particulier, tous les mois je vous parlerai d'actualités culturelles, sportives, internationales, et peut-être ferai-je des interviews si Antoine m'envoie les contacts, hein, car on sait qu'il est en connexion avec toute la Nièvre. Donc alors, pour cette rentrée d'octobre, et donc je précise que j'écris cette émission le dimanche 1er octobre, donc ce qui peut m'excuser des potentielles erreurs de pronostic durant cette chronique, parce que je vais vous parler de la Coupe du Monde de rugby. Alors, cet événement sportif mondial a lieu tous les 4 ans depuis 1987. Pourquoi si tard pour commencer à jouer ensemble au rugby? Simplement car on avait peur que ce sport devienne commercial et sorte du milieu amateur. Avant, seuls les JO entre 1900 et 1924 où le rugby était au programme a regroupé des nations de continents différents. Où d'ailleurs la France a déjà gagné les Jeux Olympiques de rugby, hein, entre 1900 et 1924, deux fois médaillée il me semble. Sinon, on avait seulement le tournoi donc, des 5 nations qui existaient, avec donc Pays de Galles, Écosse, Irlande, Angleterre et France. Et maintenant, c'est devenu donc, le tournoi des 6 nations, l'Italie s'est rajoutée à cela. Donc la première édition a lieu en 1987, en Nouvelle-Zélande et en Australie. 16 équipes sont invitées et c'est une compétition historique pour la France, avec de grands moments de sport, surtout cette demi-finale face à l'Australie et l'essai de Serge Blanco dans les prolongations.
Rodriguez maintenant, la balle pour Blanco.
Les images sont disponibles sur YouTube, frissons garantis. Les commentateurs deviennent fous. Si vous avez vécu ce moment-là, vous en rappelez forcément. Mais malheureusement, nous ne ferons pas le point hein, face aux All Blacks qui remportent à domicile la première Coupe du Monde, 29 à 9. La France remporte donc une médaille d'argent, la première, on verra que ce ne sera pas la dernière. La deuxième Coupe du Monde donc, a lieu en 1991. Elle est organisée par le Royaume-Uni et la France. Les Français ne passeront pas l'écart, éliminés par nos éternels ennemis anglais qui perdront, et ça, on peut s'en réjouir, en finale à Twickenham face à l'Australie. Donc l'Océanie domine le rugby mondial, et en 1995, c'est l'Afrique du Sud qui est de nouveau autorisée à jouer hein, à la sortie du régime d'apartheid. Ils organisent une Coupe du Monde et ils vont se hisser jusqu'à la finale aux dépens des Français qu'ils éliminent en demi-finale pour aller taper les Blacks au terme d'une prolongation en finale. Le trophée est remis par Nelson Mandela, alors président depuis à peine un an. Donc on voit que c'est l'hémisphère sud hein, qui domine le rugby. Hein, et c'est en 99 que la France va encore perdre une finale face à l'Australie, qui devient la première nation à gagner deux fois la Coupe du Monde. En 2003, ça va être la seule victoire pour l'hémisphère nord, et c'est pour les Anglais. Et pour Johnny... Bah, qu'est-ce qu'il y a, Antoine ?
Bah, c'est les Anglais, quoi.
Ouais, c'est les Anglais, quoi. Donc ça sera pour les Anglais, Johnny Wilkinson, qui a inscrit les 24 points qui suffisent à nous éliminer en demi-finale. Oui, ça, c'était vraiment les années où Johnny Wilkinson était le prince du rugby mondial, qui était vraiment très très fort au pied. Et en 2003, il me semble qu'il a inscrit 3 drops dans le même match face à la France, qui est très rare. Donc la France, bah, elle se place comme une nation phare du rugby, mais maintenant, bah, on n'a plus d'excuses. On a vu que le Nord pouvait gagner. Et donc en 2007, on met toutes les chances de notre côté en organisant la Coupe du Monde. Le plus dur est fait, on élimine les All Blacks en quart de finale. Et devinez, qui va encore nous gâcher nos espoirs ?
Non.
Les Anglais ?
Johnny Wilkinson et les Anglais qui s'inclineront,
mon Dieu.
Eux. Et ça, on peut encore s'en réjouir face à l'Afrique du Sud en finale.
Ouf.
En 2011, retour aux sources pour la Coupe du Monde qui se rejoue en Nouvelle-Zélande. Et enfin, on va cueillir la rose pour sécher les larmes de nos amis anglais en les éliminant en quart de finale. Une belle revanche était déjà prise. Et Morgan Parra va nous hisser en finale face à la Nouvelle-Zélande après un match très compliqué contre les Gallois. 24 ans après, l'histoire se répète. France-Nouvelle-Zélande chez les Blacks. Et là, ça va être la finale qui va causer beaucoup de traumatismes. Peut-être l'un des moments les plus stressants de l'histoire du sport français. Arbitrage à domicile. Les Néo-Zélandais jouent les balles au sol dans les rocks. L'arbitre ne dit rien alors que c'est sous ses yeux. Destruction de Morgan Parra volontaire non sanctionnée. Les Bleus s'en sortent avec seulement 5-0 à la mi-temps et on voit qu'il y a moyen de faire quelque chose. Du Sautoir réplique par un essai à la 46e minute, transformation passée, 8-7 pour la Nouvelle-Zélande, un point d'écart, il reste 34 minutes, la France ne reviendra jamais, on perd pour un point. Cette Coupe du Monde qu'on méritait largement de gagner, on s'est fait voler le match au niveau de l'arbitrage, alors qu'on avait une Coupe du Monde très compliquée hein, au niveau médiatique. Donc là, cette année, on peut dire que c'est pour nous. On a fait 3 finales, on en a perdu une à 1 point, on s'est fait voler. 2023, ça sera pour nous. Donc en 2015, bon, c'est pas une très bonne Coupe du Monde. Élimination en quart de finale, victoire finale pour les All Blacks au terme d'un match de folie face aux Australiens. Beaucoup disent que c'est la meilleure finale de l'histoire de la Coupe du Monde de rugby. Et en 2019, la Coupe du Monde était pour la première fois organisée en Asie, au Japon, qui est pour la seule nation qui a réussi à s'intégrer parmi les équipes traditionnelles, hein, qui a réussi à devenir forte, avec peut-être l'Argentine aussi. Et la France, bah, elle perd bêtement en quart de finale 19-20 face aux Gallois. La victoire finale revient aux Sud-Africains face aux Anglais qui rejoignent les Néo-Zélandais avec 3 victoires. Donc nous voilà arrivés en 2023 et c'est en France, comme vous le savez sûrement, que la Coupe du Monde est organisée. Alors on va analyser notre équipe actuelle avant de rentrer dans le vif de la compétition. Bah, on est sur une très bonne dynamique depuis l'ère Galtier, on a remporté le Grand Chelem en 2022. Le Grand Chelem, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand on gagne le tournoi de 6 nations sans perdre un seul match. Et on a fait un très beau tournoi en 2023 avec une énorme victoire chez les Anglais. C'est vrai que celle-là, elle fait du bien. Les humilier, marquer plus de 50 points à Twickenham, c'est énorme. On perd malheureusement face aux Irlandais, donc on termine deuxième. On est une équipe exceptionnelle. Pour moi, aucun poste n'est défaillant. Un très bon buteur, le meilleur demi-mêlée du monde, Antoine Dupont. Un Aldrit monstrueux en troisième ligne. On a tout pour réussir. Une bonne entrée dans le tournoi. Et c'est chose faite étant donné que pour le match d'ouverture, on fait un beau match dans l'état d'esprit sur le papier face aux All Blacks, qui eux sortaient de la plus large défaite de leur histoire contre l'Afrique du Sud. Ils se sont fait humilier par les Sud-Africains. Le deuxième match contre l'Uruguay, avec une équipe qu'on pourrait qualifier de B, a été très compliqué. Et bon, bah, le troisième face à la Namibie s'est solté par un 96-0. Victoire amère à cause de la fracture de la mâchoire d'Antoine Dupont qui pourrait peut-être être de retour en cas d'un potentiel demi-finale. Si on fait un tour du côté des autres équipes, les gros répondent présents avec l'Afrique du Sud qui a été impressionnante face à l'Écosse. Je pense que le plus beau match que j'ai vu aujourd'hui, c'est pas le plus beau match, mais l'Afrique du Sud face à l'Écosse, c'est la plus belle équipe que j'ai vue. Ils ont été impressionnants. Et l'Afrique du Sud s'est ensuite inclinée face à la première nation mondiale, l'Irlande, au terme d'une finale avant l'heure qui ne nous a pas réellement permis de dire laquelle des deux équipes est la meilleure. A noter que la France affrontera, si rien ne bouge, et ça risque d'être le cas, l'Afrique du Sud en quart le 14 octobre à 21h. Donc on a cité les trois favoris, hein, Irlande, Afrique du Sud et France. Ajoutons à ça les Gallois, déjà qualifiés, qui proposent un jeu surprenant, alors qu'ils étaient il y a un an près du craquage. Hein, les joueurs se demandaient s'ils n'allaient pas faire grève, tellement c'était une catastrophe leur équipe. Le Fidji, qui après une victoire historique face à l'Australie, a son destin en main face au Portugal. Les Anglais, malgré un jeu peu spectaculaire, font le travail. Derrière eux, le Japon et l'Argentine qui vont donc s'affronter dimanche à l'heure où je vous parle. Ça va être un très beau match pour arracher la qualification. Donc, je vais terminer cette chronique par mes pronostics. Donc, en tant que bon franco-franchouillard, je mets la France gagnante. On a battu l'Afrique du Sud il y a un an, on peut le refaire à la maison et jouer une finale France-Irlande, très serrée, qui risque peut-être de se jouer entre Sexton et Ramos. Et j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne Coupe du Monde à tous. On s'écoute Power de Kanye West pour se mettre dans l'ambiance de compétition, pour rentrer dans le pack finalement, pour avoir envie de mettre des raffus. Hein, même si vous faites 60 kilos peut-être avec cette musique, vous mettrez-vous au rugby. Et on se retrouve juste après ça avec la chronique de Clément. I'm living in that 21st century, doing something mean to it. Do it better than anybody you ever seen do it. Screams from the haters, got a nice ring to it. I guess every superhero need his theme music. No one man should have all that power. The clock's ticking, I just count the hours. Stop tripping, I'm tripping off the power. Broken, the school's closed, the prison's open. We ain't got nothing to lose, motherfucker, we rolling. Motherfucker, we rolling. With some light-skinned girls and some Kelly Rollins. And this white man world, we the ones chosen. So good night, cruel world, I see you in the morning. I see you in the morning. This is way too much, I need a moment. No one man should have all that power. The clock's ticking, I just count the hours. I'm tripping off the power. Till then, fuck that, the world's ours. Fucking Chanel and the whole cast. Tell them easy said they could kiss my whole ass. More specifically, they could kiss my asshole. I'm an asshole. Napoleon, my furs is Mongolian. My ice brought the goalies and I embody every characteristic of the egotistic. He knows he's so fucking gifted. I just needed time alone with my own thoughts. Got treasures in my mind but couldn't open up my own vault. My talent, like creativity, purity and honesty is honestly being crowded by these grown thoughts. Reality is catching up with me. Taking my inner child, I'm fighting for custody. With these responsibilities that they entrusted me. As I look down at my diamond and crushed to piece, thinking no one man should have all that power. The clock's ticking, I just count the hours. Stop tripping, I'm tripping off the powder. Till then, fuck that, the world's ours. Translation with a whole fucking nation. They say I was the Obama nation of Obama's nation. Well, that's a pretty bad way to start the conversation. At the end of the day, goddammit, I'm killing this shit. I know damn well y'all feeling this shit. I don't need your pussy, bitch, I'm on my own dick. I ain't got a power trip, who you going home with? How ye doing? I'm surviving. I was drinking earlier, now I'm driving. What a bad bitch is, huh? Where you at? Suicide, 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 suicide
go. You got the power to let power go.
De retour sur Bac FM 106.1, vous écoutez l'écho des jeunes, c'est le retour de l'écho des jeunes. On vient d'écouter Power de Kanye West et il a un peu la pression, c'est sa première chronique. Pas sa première chronique. À la radio, mais première chronique dans l'écho des jeunes. Clément va vous parler des réseaux sociaux, de tout le côté addiction qui tourne autour.
C'est tout à fait ça, bonjour à tous. Aujourd'hui, donc, nous allons parler des réseaux sociaux et des dangers qui nous entourent. Bon, on ne va pas traiter des questions qui tournent autour du harcèlement. Non pas qu'elles soient minimisées, mais vous allez vite le comprendre, ce n'est pas véritablement l'orientation de ma petite chronique. Tout d'abord, j'aime dire que les réseaux sociaux n'ont pas des utilisateurs, mais plutôt une population. Par exemple, Facebook a une population de 2,3 milliards d'habitants, avec à sa tête un chef, Mark Zuckerberg, et un conseil d'administration. Premier problème, cela froisse littéralement nos valeurs occidentales, par exemple celles de la démocratie. Si on regarde YouTube, qui a décidé qu'on ne pouvait plus dire de gros mots dans les 30 premières secondes d'une vidéo? Qui a voté pour définir les règles qui jugent si une vidéo est éligible à la monétisation? Personne, simplement un conseil d'administration. Deuxième problème, si on va un petit peu plus loin que ça dans l'observation, nous remarquons bien assez vite que les réseaux sociaux sont comme des logiciels espions. D'ailleurs, le scandale sur la NSA est très parlant. La NSA, vous le savez sûrement, c'est l'agence de la sécurité nationale aux États-Unis. Elle était donc l'entité chargée de stocker les données de l'ensemble des utilisateurs des réseaux sociaux américains. Ce droit lui a été retiré quand on s'est rendu compte que l'agence avait acheté un logiciel espion pour 20 millions de dollars pour ranger et classifier les données des utilisateurs. Pour vous donner un ordre d'idée, 20 millions de dollars, ce n'est même pas suffisant pour construire l'ensemble des toilettes du Pentagone. Cette fois-ci, en France, une loi a été votée en 2021 dans le plus grand des silences. Elle autorise l'État à collecter tous les URL que l'on consulte, ainsi que tout ce que nous faisons sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire les messages, les likes, les stories. Le débat devait durer 3 jours et en une dizaine d'heures, l'échange Assemblée nationale et Sénat était fait et la loi est passée. C'est liberticide. Mais du coup, comment les réseaux sociaux nous regardent? Bien, c'est très simple, en nous rendant accros. Mais il me semble difficile de devenir accro aux réseaux sociaux. Comment ces entreprises s'y prennent? Eh bien, c'est très simple. Le premier facteur, c'est la dopamine. En 2016, un neurobiologiste nommé Christian Lucher met des souris dans une cage avec un bouton. Quand elles appuient sur le bouton, un capteur simule leur cerveau, qui libère de la dopamine, le neurotransmetteur associé au plaisir. Chaque fois qu'une souris appuie sur le bouton, elle prend un shot de joie instantané. La dopamine nous permet de ressentir du plaisir lors d'un orgasme ou lorsqu'on mange du chocolat. Le cerveau aime tellement cette substance que s'il comprend que manger du chocolat égale plaisir, il peut en devenir dépendant. Rapidement, les souris deviennent accro au bouton. Elles veulent recevoir de plus en plus de shots, à tel point qu'elles ne pensent plus à dormir, manger, boire et à se reproduire. Si les scientifiques ne les avaient pas sortis de la cage, les souris seraient mortes. Heureuse. La seule chose qui comptait à leurs yeux, c'était d'appuyer sur le bouton. Maintenant, imaginez qu'à chaque fois qu'une souris dans le monde appuie sur un bouton, quelqu'un gagne de l'argent. Il a de quoi devenir très riche. C'est le rêve de toutes les entreprises dont l'économie repose sur votre attention. Créer un besoin assez fort et d'apparence inoffensif pour que ses consommateurs se droguent sans même s'en rendre compte. Et jamais personne n'avait réussi à le faire comme TikTok. TikTok, c'est 1 milliard d'utilisateurs qui passent en moyenne 1h30 par jour sur l'application. Parce qu'ils sont addicts à ce qu'elle fait à leur application. Chaque swipe sur l'application libère le même shot de dopamine qui a poussé à les laisser mourir. TikTok est parvenu à mettre un bouton dans notre poche. Maintenant, les shorts, les réels et donc les TikTok ont enlevé la notion d'effort avant le shot de dopamine. Ça peut vous arriver, vous scrollez à peu près 2 heures et vous arrivez finalement à votre bureau pour travailler, mais la concentration n'est pas au rendez-vous. Car là, pour recevoir un shot de dopamine, il faut fournir un effort. Le deuxième facteur de l'addiction, c'est simplement l'algorithme. Mais comment ça marche? Eh bien, imaginons, prenons l'exemple d'un utilisateur, l'utilisateur A. Il aime le foot et il a regardé les photos de Kylian Mbappé et de Erling Haaland. Maintenant, l'utilisateur B, lui aussi aime le foot et il a regardé uniquement les photos de Kylian Mbappé. Alors l'algorithme, voyant qu'il y a des similitudes entre les deux profils, va proposer des photos d'Erling Haaland à l'utilisateur B. Et cela fonctionne avec des millions de personnes. Prenons l'exemple de Cambridge Analytica, la société qui a utilisé les données de 87 millions d'utilisateurs pour influencer les élections présidentielles à l'américaine de 2016. Maintenant, étant donné que la nouvelle place publique, c'est Facebook, les gens qui critiquaient donc Facebook ont été mis en lien grâce aux algorithmes, les renfermant ainsi entre eux. Ces algorithmes sont utilisés, sont tellement puissants que même leur critique sert à promouvoir la puissance de ces mêmes réseaux sociaux. Donc. Le troisième facteur de notre addiction, c'est simplement qu'en tant qu'humain, c'est un désir d'être aimé. Et les réseaux sociaux facilitent énormément cette volonté d'être aimé. Enfin, le dernier facteur qui nous rend addicts aux réseaux sociaux, c'est le fait que nous ne subissons pas la contrainte. On a le choix d'être sur un réseau social ou non. Et comme dirait le célèbre diplomate américain Henry Kissinger, donner le sentiment de liberté à une population est le meilleur moyen de la renfermer. Ainsi, ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est qu'en plus de l'espionnage, les réseaux sociaux ont un impact négatif sur notre santé, notamment dû au fait qu'ils nous rendent accros grâce à la surstimulation de notre dopamine. Mais faut-il supprimer les réseaux sociaux ? Bien, personnellement, je ne suis pas totalement d'avis, car les réseaux sociaux et plus largement Internet permettent plus facilement de mettre en avant votre art, votre entreprise par exemple. Mais ces outils, si mal utilisés, peuvent transformer notre cerveau en huître, comme j'aime le dire. Mais si bien utilisés, cela peut booster nos compétences ainsi que nos connaissances. Je terminerai cette chronique en disant qu'il ne faut pas que ce soit la machine qui nous utilise, mais plutôt nous qui utilisons la machine. Merci de m'avoir écouté et je vous propose qu'on se mette une magnifique chanson, Sunday Bloody Sunday, de U2.
Come
C'était Sunday, Bloody Sunday, dans l'écho des jeunes sur BAC FM 106.1. Clément, tu viens de nous parler des réseaux sociaux. Mais si on sortait un peu de ces réseaux et qu'on allait dehors, qu'on allait voir l'océan par exemple, avec Miloane.
Sous l'océan, tout c'est bien mieux, tout le monde est heureux sous l'océan.
En effet, aujourd'hui, je vais vous parler de la protection des océans, mais pourquoi en soi à Nevers, donc il n'y a que la Loire, on n'a pas vraiment d'océan, alors pourquoi c'est un sujet qui me préoccupe? Alors je sais pas vous, mais pour moi, l'environnement c'est assez important, et quand on voit que les dirigeants ont choisi de faire la prochaine COP 28 à Dubaï, alias un des plus gros pollueurs du monde, on se dit, qu'est-ce qui leur est passé par la tête? Et donc je me retrouve aujourd'hui en train de vous exposer donc pourquoi on devrait protéger nos océans et plus généralement notre environnement. Alors tout simplement, l'océan pour moi c'est la vie. L'océan, il reste tellement d'espace à découvrir au sein de ceux-ci que c'est vraiment un mystère presque insoluble encore. Et c'est vraiment cet aspect-là que j'aime, car ça nous permet encore de rêver, de s'émerveiller face à notre monde. Et même ça peut inspirer beaucoup, par exemple les films avec la culture. Si tu regardes les derniers DC Marvels, tu peux voir qu'il y a eu Aquaman, Atlantis. Waouh! Ensuite, tu peux voir qu'il y a eu Superman. Superman, il vient de Krypton. Krypton, c'est une planète. On ne sait même pas où elle est. Ça se trouve, elle existe. Mais ces espaces qui sont inconnus, c'est franchement quelque chose qui nous permet encore de rêver dans notre monde où on est surinformé, on va dire.
Si je peux me permettre, je ne sais pas si tu veux en parler, mais c'est aussi. Beaucoup de découvertes scientifiques sont basées sur les fonds marins.
Oui, absolument.
Et peut-être qu'on pourrait trouver dans les fonds marins des choses qui pourraient nous aider à guérir des maladies humaines pour comprendre.
Exactement. Et si tu veux le savoir, un truc, c'est que dans les fonds marins, on a des ressources pour, par exemple, qui pourraient aider à guérir des cancers ou encore même améliorer le vaccin contre la Covid. Donc, pour en revenir maintenant vraiment à la protection des océans, on peut voir que il y a un premier traité, qui est un traité même historique, qui a été fait par l'ONU en mars dernier, qui a été ratifié en septembre donc 2023 par 67 États. Et donc, c'est le premier accord sur la protection de la haute mer pour donc protéger sa biodiversité. Alors, pourquoi en fait ce traité il était nécessaire? On va le voir notamment à travers la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer avec donc à Montego Bay en 1982, qui a créé trois zones dans les océans. On va avoir tout d'abord les mers territoriales. Donc là, il y a la souveraineté des États qui est appliquée. On a aussi les zones économiques exclusives qui sont situées à 370 km au large des côtes, qui en fait, les États qui ont donc leur zone économique exclusive, leur permet d'avoir une certaine exclusivité d'exploitation des ressources, que ce soit halieutiques ou encore les ressources en hydrocarbures. Et en fait, on va avoir la haute mer ou les eaux territoriales qui a presque une absence totale de juridiction puisque c'est seulement 1% de cet espace qui est protégé alors que ça représente 60% de la surface du globe, la haute mer. Et donc, on va chercher à le protéger à hauteur de 20 à 30% grâce à ce traité de la surexploitation de la part de tous les États, puisque cette haute mer n'appartient à aucun État en fait dans les faits. Et donc on va le protéger de la surexploitation des ressources halieutiques, également du transport maritime ou du trafic, et on va pouvoir l'exploiter également pour les recherches scientifiques que donc tu as spoilé, Antoine. Mais c'est pas grave. Donc pourquoi on va chercher à vraiment protéger nos océans? Parce que les océans, ça réduit considérablement nos émissions de carbone, parce qu'ils ont un écosystème vraiment incroyable et qui joue un rôle clé aujourd'hui, puisque ça permet d'absorber d'une part le dioxyde de carbone, mais ça crée en fait plus de la moitié du dioxygène. Je vais pas y arriver, pardon, excusez-moi. Ouais. Donc du dioxygène que nous respirons aujourd'hui. Mais pourtant, on a une surexploitation alors que cet espace, il abrite plus de 2 millions d'espèces. Vous vous rendez compte, plus de 2 millions d'espèces, dont au moins 10% sont en voie d'extinction. Et donc, en soi, on va rentrer dans l'aspect plus théorique maintenant. Alors comment ce traité devrait être appliqué? Ce traité, en fait, il va exiger de chaque État une création plutôt de d'aires marines protégées, une étude également de l'impact des activités humaines sur la haute mer, mais également un partage des bénéfices qui est donc lié aux ressources, comme notamment la commercialisation des ressources dans un but de pharmaceutique ou encore cosmétique. Et donc, un point qui était vraiment au cœur lors de la mise en place de ce traité, c'était l'équité qu'il devrait y avoir entre les pays du Nord et les pays du Sud qui se sont battus pour en fait ne pas être exclus donc, de l'accessibilité aux ressources. Donc j'espère que cette petite introduction à la protection des océans a pu vous sensibiliser. Et je vais maintenant vous laisser écouter une musique qui a une vibes plutôt d'automne avec Saigon de Luc Hemming.
C'était Saigon dans l'écho des jeunes sur Bac FM après une magnifique chronique de Milohan sur la protection des océans. Ce morceau a une vibe un petit peu automne comme tu l'as dit et justement, ça y est, on est en octobre, c'est l'automne, les jours vont se faire de plus en plus courts, les nuits de plus en plus longues, la nature meurt, le temps est triste.
Non, la nature change, elle est magnifique.
Mais ne soyons pas fatalistes.
Ah, bien.
Ce temps triste est en fait une belle aubaine. L'aubaine de pouvoir rester chez soi pour jouer à toutes les formidables sorties de jeux de ce mois-ci, puisqu'on arrive à une grande période de sorties de jeux vidéo en cet octobre 2023. Et j'en parlerai en deuxième partie de chronique, puisque ce temps, c'est aussi l'occasion d'aller au cinéma. On a en effet de belles sorties ce mois-ci dans les salles obscures, à commencer par Bernadette.
Ah oui.
Je ne parle pas ici de votre grand-mère fan de 12 coups de midi qui écoute... qui écoute actuellement Nagui à la place de cette formidable émission, mais bien de la première dame de France, Bernadette Chirac, femme de Jacques Chirac, président de la République de 1995 à 2007. Cette comédie suit Bernadette Chirac juste après l'élection de son mari. Elle voudra alors prendre les choses en main pour devenir une personnalité médiatique importante. Il s'agit du premier long-métrage réalisé par Léa Domenech, désolé pour la prononciation si ce n'est pas ça.
On l'excuse, ouais.
Fille du journaliste Nicolas Domenech. Domenech peut-être.
Oui, Domenech, je crois.
À l'affiche, on a du beau monde, Catherine Deneuve qui interprète Bernadette, ou encore Jacques Chirac interprété par Michel Vuermoz, que vous avez pu voir notamment dans le rôle de Marcel dans la série OVNI, disponible sur Canal+.
Antoine.
Bernadette, c'est sorti le 4 octobre, c'est déjà disponible en salle, et ça n'assure que du bon.
Madame Chirac, comme Claude ne m'a pas donné de budget pour commander un vrai sondage d'opinion, je me suis permis d'en réaliser un moi-même sur le personnel de l'Élysée. Alors, ne vous inquiétez pas, je dois vous prévenir, les résultats ne sont pas bons. Les gens vous trouvent ringarde.
Bonjour Madame Chirac.
Bonjour Molinier.
Froide. 19,8.
Bonjour Madame.
Bonjour Madame Chirac.
Austère. Acariâtre à égalité avec Revêche.
Oui, moi ça va, j'ai compris.
Mais pas de panique. Nous allons faire en sorte que les Français découvrent votre vrai visage. Va falloir apprendre à désobéir, Madame Chirac.
Une année difficile. Ce n'est pas ce qui nous attend cette année, bien sûr, mais c'est une comédie réalisée par Éric Toledano et Olivier Nakache, notamment connus pour Intouchables, Nos Jours Heureux et dernièrement Hors Normes en 2019. Dans Une année difficile, on y retrouve Albert et Bruno, interprétés par Jonathan Cohen et Pio Marmaille, qui sont surendettés. Ils vont trouver le chemin d'une association écologique, qui vont petit à petit intégrer, même s'ils sont plus attirés par les bières et les chips gratuites que par la cause. On y retrouve alors des messages sur l'écologie et le militantisme, dans un ton humoristique, typiquement à la Éric Toledano et Olivier Nakache, et ça sort le 18 octobre 2023, et ça n'assure aussi que du bon. Enfin, second tour. Concernant le domaine cinématographique, je voudrais finir par vous parler de ce film. C'est le dernier bébé du légendaire Albert Dupontel, qui a réalisé les films Au revoir là-haut, ou encore en 2020 Adieu les cons, que je vous conseille par ailleurs. Dans second tour, on suit le point de vue d'une journaliste, Mademoiselle Pauve, qui va enquêter sur un candidat à l'élection présidentielle en plein second tour. Allez voir ce film les yeux fermés, enfin ouvrez-les quand même pendant la séance, mais Albert Dupontel, ça assure un film à l'ambiance singulière, particulière et unique, rempli d'une multitude d'émotions qui se mélangent. Second tour, ça sort le 25 octobre au cinéma, et ça, ça risque d'être un bon classique.
J'espère.
Ah mais, c'est sûr. Côté jeux vidéo, on est gâté ce mois-ci, en ce mois d'octobre, après un été et un mois de septembre un peu pauvre en jeux. Là, à l'approche de Noël, on sent que les éditeurs veulent sortir leur dernier nez. Et il y en a pour tous les goûts, tous les genres, toutes les plateformes. Et je ne vais pas être exhaustif aujourd'hui, mais par ordre chronologique, on commence par Assassin's Creed Mirage. Ce jeu français tout droit sorti des bureaux d'Ubisoft Bordeaux revient aux origines de la licence Assassin's Creed, dont il est le 13e opus principal. Au rendez-vous parcours, discrétion et récits passionnants en plein cœur de Bagdad, on y incarne Basil, un habile voleur qui a des visions cauchemardesques et qui est en quête de réponses et de justice. Sa sortie est prévue le 5 octobre 2023, donc c'est déjà sorti sur PC, PS4, PS5, Xbox, Xbox Series et Amazon Luna. Avant d'écrire cette chronique, je ne savais pas ce qu'était Amazon Luna. Et bien, c'est un service de jeux vidéo d'Amazon.
En streaming, on peut le...
En streaming, tout à fait.
Ouais. L'hégémonie d'Amazon. Yeah. Elle s'étend encore.
On a ensuite Forza Motorsport, un autre style de jeu. Hein. On va maintenant aller du côté de Xbox. Pour leur grosse exclusivité du mois, Forza Motorsport, après 6 ans d'attente, ce jeu de course promet 500 véhicules, 20 célèbres circuits modélisés et plus de 80 améliorations pour les voitures. Pour les passionnés de sport, ça m'a l'air d'être pas mal, surtout que le jeu est magnifique avec de très beaux graphismes. Juste après le GP Explorer de Squeezie en plus, je pense que ça va donner à beaucoup de gens d'aller tester celui-ci. Il sort le 10 octobre sur PC et sur Xbox Series. Sonic Superstar, dans un tout autre style, mais avec autant de vitesse, voire plus, ce mois d'octobre marque le retour de Sonic. Non pas le Sonic 3D à la Sonic Frontières sorti l'an passé, mais le Sonic 2D, classique, Sonic Superstar. Ce tout nouveau jeu profite de graphismes améliorés par rapport au premier jeu 2D de la licence, avec un rendu 2D 3D, et fait office, tout comme Assassin's Creed Mirage, d'un retour aux sources pour la licence, aux jeux de plateforme colorés et dynamiques, mais avec de nouvelles fonctionnalités, puisqu'il y a du multijoueur dans cet opus, jusqu'à 3 personnes peuvent participer à l'aventure en simultané. C'est développé par Sonic Team et édité par Sega pour une sortie prévue le 17 octobre 2023. Et pas d'excuse pour pas y jouer, là ça sort partout, Nintendo Switch, PS4, PS5, PC, Xbox One et Xbox Series. pas Amazon Luna par contre.
Ah, bonne nouvelle.
3 jours plus tard, sort un nouvel opus de son rival des années 90, Super Mario avec Super Mario Wonder. Ce jeu marque aussi le retour de Mario en 2D 11 ans après son dernier opus hors remake. Pour l'occasion, Nintendo fait peau neuve avec une toute nouvelle direction artistique pour le plombier et de toutes nouvelles fonctionnalités en plus d'un nouvel univers. Cette nouvelle aventure prend place dans le royaume des fleurs, dans lequel Mario et ses amis étaient conviés par le prince Florian. Et c'était sans compter sur Bowser qui vient encore une fois gâcher la fête en prenant d'assaut le château du prince et le royaume tout entier. Dans ce monde aux allures et aux musiques oniriques et à l'ambiance douce et pastel, vous pourrez incarner pas moins de 12 personnages, dont Mario, Luigi ou encore Peach, qui bénéficient tous de nouvelles animations. On sent que le film Mario est passé par là quand on regarde les trailers. On y retrouve un mode multijoueur en local et en ligne, et Nintendo innove toujours plus dans le gameplay, notamment avec un nouveau système de badge qui, une fois équipé, change toute la perception d'un niveau, ou encore les fleurs prodiges, nouvel élément de gameplay qui transforme totalement le niveau dans lequel elle se trouve. Sachez par ailleurs, petite anecdote, que l'acteur qui interprète la voix de Mario depuis toujours, Charles Martinet, laissera place à un nouvel interprète pour Mario, Luigi ou encore Wario et d'autres personnages de la franchise. Et le nom de ce nouvel acteur sera dévoilé en exclusivité dans le générique de fin de Super Mario Wonder. Est-ce que vous vous attendiez déjà à jouer à un Super Mario et à essayer de ne pas vous faire spoiler le jeu avant de l'avoir fini ? Je crois que c'est une première et cet opus sera en exclusivité sur Nintendo Switch et c'est prévu pour le 20 octobre. Mais le 20 octobre, il n'y a pas que Super Mario Wonder. Le même jour, il y a la sortie d'une des plus grandes licences de Sony, Marvel's Spider-Man 2. Ce jeu d'action d'aventure open world prend place dans un New York agrandi depuis le premier opus. On pourra y incarner Peter Parker et Miles Morales, les deux Spider-Man iconiques de ces dernières années, que l'on pourra jouer à tour de rôle sans pour autant avoir de mode multijoueur dans l'opus. Cependant, on y retrouve des méchants iconiques de la série, comme par exemple Venom. Les graphismes sont époustouflants, l'histoire semble passionnante, les fans seront ravis, la liberté semble grandiose. Marvel's Spider-Man 2, ça sort en exclusivité sur PS5 le 20 octobre. Vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire après avoir écouté cette émission qui touche à sa fin.
Faut que je m'achète une PS5 du coup, c'est ça ?
Tout à fait, ou une Nintendo Switch pour jouer à Super Mario Wonder, on ne sait pas. Ou Amazon Luna.
Non, non,
ça sort de
question.
J'empêche mon frère d'écouter cette émission parce qu'avec Forza, là, je ne vais plus pouvoir dormir quand même.
Ah bah, et en plus, ça promet. Ouais.
Oh mon Dieu.
L'écho des jeunes, pour ce mois d'octobre, c'est déjà fini. L'émission a filé très vite avec oui. de belles chroniques aujourd'hui.
Est-ce qu'on les embauche du coup?
Je crois que oui. Je crois okay. que la période d'essai est bien terminée.
Ouais. On a passé l'entretien.
On les paye qu'à partir de la prochaine émission. Par contre.
Tout à fait. Ouais. Mais nous, déjà, il faudrait qu'on soit payé.
Oui, c'est vrai.
Sachez, chers auditeurs, que vous pouvez retrouver cette émission, si vous ne l'avez pas écoutée dans son entièreté, sur le site de Bac FM. On est 24h/24 là-bas, en podcast. Et on est aussi diffusé tous les mois, le deuxième lundi de chaque mois. À 7h30 et le deuxième samedi de chaque mois à midi. On espère que cette émission vous a plu. À bientôt, chère équipe, avec peut-être cette saison aussi, je tease un petit peu des nouveaux formats comme des interviews ou le retour de l'écho des passants avec
peut-être.
Des petits micro-trottoirs.
Ça serait pas mal de faire ça, je pense.
Mais aussi, pourquoi pas, des débats aussi. Enfin bref, on a plein d'idées. Ouais. Rendez-vous le mois prochain. C'était l'écho des jeunes sur Bac FM 106.1.
Au revoir.
Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. And if I stay it will be double. So you gotta let me know. Should I stay or should I